Un disciple sur le chemin présente Le miroir de l'Uroboros, podcast ésotérique dédié à la spiritualité, à l'étude de l'occultisme et à la métaphysique théosophique. miroir.uroboros.net. Agni Yoga, les feuilles du jardin de Moria. Illumination, 19e partie. Il sera demandé, comment pouvez-vous vous référer à un créateur que vous ne connaissez pas? Répliquez, historiquement et scientifiquement, nous connaissons les grands instructeurs qui ont créé la qualité de notre conscience. En reconnaissant l'influence de l'idéologie des instructeurs, ne réduisez-vous pas votre liberté? Répliquez, la qualité de la liberté est remarquable. Si déjà la liberté existe, rien ne peut la limiter. Le corps peut être mis dans les fers, mais rien ne peut diminuer la conscience, sauf la laideur. Lorsque nous touchons aux hauteurs de la liberté, nous devons nous protéger de la laideur. Si nous voulons exalter la matière, nous devons penser à la beauté avec sagesse. Dans la beauté, l'infini est manifesté. Dans la beauté, les enseignements des chercheurs de l'esprit sont illuminés. Dans la beauté, nous ne craignons pas de manifester la vérité de la liberté. Dans la beauté, nous suscitons le rayonnement dans chaque goutte d'eau. Dans la beauté, nous transformons la matière en arc-en-ciel. Il n'est pas de laideur qui ne sera engloutie dans les rayons de l'arc-en-ciel. Il n'est pas de fer qui ne se désintégreront dans la liberté de la beauté. Comment trouverons-nous les mots pour approcher le concept de l'univers? Comment parlerons-nous de l'évolution des formes? Comment élever la conscience à l'étude des principes fondamentaux? Comment stimuler l'humanité à la connaissance scientifique des mondes? Chaque réalisation naît dans la beauté. Sachez penser de façon rayonnante et rien de terrifiant ne vous touchera. Souvenez-vous, nous ne proférons pas d'interdiction. Il a été dit que celui qui parle contre l'esprit démontre son ignorance et se blasphème contre l'esprit est le pire de tous. On a parlé des saints. Mais à qui ce concept inexplicable peut-il être appliqué? Ceux qui exécutent des miracles seront des magiciens savants. Ceux qui gardent leur vie dans la pureté seront des gens pratiques. Seuls ceux qui ont renoncé consciemment à tout ce qui est personnel et qui ont transporté leur conscience vers la conception de l'évolution du monde peuvent être appelés saints dans notre compréhension. Il est impérieux que ce processus soit accompli consciemment, en dehors des conditions extérieures fortuites. Il est impossible de réimplanter de force la religion, ce ne serait qu'une monstruosité sacrilège. La voie du renoncement à la laideur de la vie poussera l'esprit à des quêtes véridiques. Alors l'évidence de l'interrelation des mondes nous forcera à réfléchir scientifiquement. Cette pensée ineffable est le début de la discipline spirituelle. Ces quêtes, dénuées de l'élément personnel, éveillent le réflexe de l'action. Ceci est appelé accomplissement spirituel. Il vaut mieux, en général, remplacer le mot « saint » par une locution tout à fait définie, celui qui est parvenu à l'accomplissement. La manifestation de l'accomplissement dans la vie est ininterrompu et sans hypocrisie. Nous serons ainsi capables de proclamer ces manifestations évidentes. L'accomplissement de la vie doit être exécuté par des mains humaines. Un prophète est un homme qui possède la prévoyance spirituelle. tout comme sur le plan physique, il y a la myopie et la presbytie, on doit comprendre aussi simplement la presbytie de l'esprit. Ce serait absolument le comble de l'ignorance de nier toutes les prophéties. Ce serait complètement stupide de condamner les prophètes. Si nous examinons scientifiquement et impartialement les prophéties qui ont eu la chance d'être conservées, que voyons-nous ? Nous trouvons des personnes qui, sans tenir compte de l'avantage ou du désavantage personnel, scrutèrent une page à venir de l'histoire, furent terrifiées et avertirent les gens. Parmi les prophéties connues, on ne trouve pas d'intention égoïste, on ne trouve pas d'intérêt personnel criminel, on ne trouve pas de médisance. Les symboles des visions sont teintés à cause de la distance, de la différence dans l'espace et dans le temps. Quand les savants trouveront-ils le temps d'examiner scientifiquement les prophéties et de faire des comparaisons historiques? Ce serait là pour un jeune savant un excellent livre à écrire. Oui, ami, il est temps d'apprendre à approcher culturellement les manifestations évidentes. Sinon, les accomplissements futurs seront aux hommes ce que sont les électrons à des enfants au berceau. Vos uniformes et vos toges ne cachent pas le fait que vous êtes des enfants timorés. Vous demanderez qui déterminera vos rangs et vos appellations. En vérité, vous seriez horrifié de voir les origines de votre contentement. Des nains de cupidité essayèrent de faire écran aux géants du bien commun. Le rayonnement du monde nouveau ne pénètre pas dans votre terrier, mais qu'un tourbillon balaie les racines qui voilent l'aurore. Il n'y a rien de plus beau que le lever du soleil, et le soleil se lève à l'est. Se peut-il qu'il vous soit tellement difficile de comprendre l'astrologie ? Si vous n'en avez pas connaissance, je suggère de faire une expérience. Supposons que vous preniez quatre organismes, une plante, un poisson, un oiseau et un mammifère. Disons un lys, une carpe, une colombe et un chien. Procurez-vous sept spécimens de chaque et pour chaque groupe, construisez un endroit privé de la lumière du jour et saturé d'une lumière électrique colorée. Le verre devrait être de diverses couleurs, se conformant d'aussi près que possible aux couleurs de l'arc-en-ciel. La nuit, vous ne ferez que réduire la quantité de lumière. Ainsi, vous pourrez les observer pendant environ 4 mois. À la fin de ce temps, même un aveugle saisira la différence des résultats. De plus, il manquera le facteur principal du rayon stellaire, à savoir sa composition chimique. Il est impossible d'ignorer l'importance de l'influence physique des corps planétaires. L'attention et les expectatives de l'humanité doivent être tournées vers les mondes lointains. Ainsi, tout ce qui a trait à ce sujet doit être étudié sans préjugés. Puisque la connaissance exacte est nécessaire, l'astronomie est applicable de manière frappante. Il est possible de publier des décrets, de faire des promesses et d'intimider. Mais seule la compréhension incite. Qu'est-ce qui pourrait remplacer la compréhension de l'applicabilité ? Les gens diront « Comme c'est beau, comme c'est puissant, comme c'est sublime !» Mais toutes ces exclamations sont comme des feux follets sur un marais et sont aussi vite éteints qu'ils sont engendrés. Des pensées pures mais superficielles sont comme des particules de poussière multicolores. Le premier vent venu les emporte dans l'espace. La couleur de telle particule est négligeable. Nous apprécions une pensée qui a engendré une décision. La décision est appréciée d'après son applicabilité. L'applicabilité est jugée par la connaissance de l'esprit, et alors il en résulte une action de laquelle on peut se réjouir. Celui qui se réjouit possède aussi la foi. Même la foi doit être solidement assise, et ainsi l'enseignement peut vivre. Nous calculons juste, nous appliquons bien. Si vous êtes accusé d'économie, ne rejetez pas ces accusations, car l'économie est opposée à la folie, et la folie est opposée à la connaissance de l'esprit. Mais quel que soit le cercle de raisonnement que nous choisissions, nous reviendrons inévitablement à la grande connaissance de l'esprit. Je ne sens pas vaguement, je sais. Ce n'est pas la superstition, mais la certitude. Lorsque nous sommes remplis d'immuabilité, c'est comme si nous avions contacté l'aimant de la planète. Alors, nous nous tenons fermement debout. Évitez l'uniformité, tant du lieu que du travail. En fait, l'uniformité accompagne la plus grande erreur, le concept des possessions personnelles. Avant tout, l'esclave des possessions perd la mobilité d'esprit. Un tel esclave cesse de comprendre que chaque journée de travail devrait être teintée d'une qualité spéciale de l'esprit. Il ne peut pas changer de place, car son esprit sera fixé en permanence dans sa demeure terrestre. Demandez-vous, vous est-il facile de déménager à un autre endroit? Vous est-il facile de changer la nature de votre travail? Si tel est le cas, cela signifie que vous pouvez apprécier la valeur du bien commun. Si chaque journée vous oblige à écrire vos dernières volontés et votre testament, et qu'un changement de travail vous rend malheureux, cela signifie qu'il vous faut prendre un remède. Des voyages des plus dangereux devraient être prescrits et un travail des plus diversifiés devrait être assigné. Cela développera le courage et l'ingéniosité, car la cause primaire du défaut est la peur. L'embryon de la propriété est aussi la peur, le sentiment qu'on doit être attaché à la terre au moins par quelque chose. Comme si un taudis misérable pouvait être une ancre adéquate pour l'esprit. Comme si un tas de possessions personnelles pouvait protéger de la foudre. Périodiquement, les jouets nuisibles de la propriété ont été soustraits à l'humanité. Mais la peur, à nouveau, la mère des mensonges, tisse sa toile d'araignée, et de nouveau des terreurs sont tramées. Par conséquent, abolissons la peur. Avec elle s'en iront la possession d'objets et l'ennui. Que de santé nouvelle il y a dans la diversité des lieux et du travail. Le nirvana est la qualité d'assimilation de toutes les actions. La saturation de l'inclusivité totale vous apporte la vraie connaissance, découlant du tremblement de l'illumination. Les langues n'ont pas de définition plus précise de ce processus. La quiétude n'est qu'un aspect extérieur, et la quiétude n'exprime pas la nature essentielle de la condition. Le Bouddha mentionna la quiétude, mais seul son aspect extérieur fut assimilé par ses auditeurs. Car aux gens qui l'écoutaient, l'idée du repos était très attrayante. L'action, en tant que quelque chose de méritoire, est trop peu comprise. Vous aimez la construction scientifique, nous aussi. Si vous avez entendu la théorie des anneaux tourbillonnants, la théorie des ondes, du magnétisme, de l'attraction et de la répulsion, alors vous devez réaliser qu'il existe sur la Terre des endroits de signification très diverses. Même des gens à la compréhension obtuse ont réfléchi au destin étrange de beaucoup de villes. La combinaison d'un physicien, d'un astrochimiste, d'un biologiste et d'un astrologue fournirait la meilleure réponse, sans aucun mysticisme. Il faudrait planifier prudemment la construction des grandes villes. La politique contemporaine est ce qu'il y a de plus insignifiant, car ce concept manque d'une base scientifique et de beauté. Jaugeant les besoins de la cité future, ne soyez pas égarés par un concept apparemment large. Une bagatelle est souvent plus indicative. Également, en choisissant des collaborateurs, faites attention aux détails pendant les petites actions. Déterminant la nature essentielle de l'homme par la pupille de son œil, nous l'entourons avec des habitudes de petites actions. Moins que tout, N'attachez pas de signification aux paroles, elles sont comme de l'eau qui s'écoule. De petites actions qui saturent toute la vie montrent le mieux la nature d'un homme. De là croissent les grandes actions. Nous n'avons pas grande confiance dans les accomplissements fortuits. Par peur, on peut accomplir un acte de courage. Des actions conscientes sont nécessaires. Elles seules conduisent au nirvana. Imaginons-nous qu'un homme soit imbu de la pensée, que ses deux yeux voient différemment. Bien sûr qu'il aura raison, mais par cette pensée même, il se détruira la vue. La coordination des réflexes est difficile, mais elle seule assure le succès opérationnel de l'appareil. La différence entre les yeux est ce qui donne la perspective aux choses vues. Exactement de cette manière, deux vérités différentes s'unissent dans un système sain. Un homme obsédé par la pensée contenant différentes vérités est comme l'homme qui réfléchit à la différence de ses yeux. Il perd la perspective de la conception. De l'autre côté de la fenêtre, un appel retentit. Un des ouvriers l'ignora, disant « Ne me dérangez pas, je suis occupé. » Un autre promit de venir, mais oublia. Un troisième vint après que son travail fût fini, mais l'endroit était déjà vide. Un quatrième se mit à trembler d'un appel, et mettant ses outils de côté, il partit tout de suite, disant « Me voici. » Ceci est appelé le frémissement de la sensibilité. Seul ce frémissement, éclairé jour et nuit par la conscience, conduit à la connaissance de l'esprit. Au-dessous, et plus haut que la raison, les portes s'ouvrent par un frémissement qui est même audible pour l'appareil humain. Si vous n'êtes pas capable de supprimer en vous ce frémissement de sensibilité, tant mieux pour vous. Demandez à un compositeur s'il aime les chœurs et les symphonies à l'unisson. Il déclarera que votre question est une absurdité, car il n'existe rien de pareil à une symphonie à l'unisson. Pour un nouveau ton, le compositeur est prêt à introduire l'instrument le plus inattendu. C'est juste la même chose dans la formation d'un groupe. Ne soyez pas surpris de l'apparente diversité des membres. Ils ne sont groupés ni d'après la naissance, ni par les habitudes, ni par les erreurs. Leur contact est en esprit. Ils sont unis en un cœur par l'esprit, qui est impondérable, invisible et inaudible. Par conséquent, ne blâmez personne pour le timbre de sa voix. Sa qualité est l'important. C'est chose joyeuse de réaliser que la qualité peut toujours être améliorée s'il y a discipline de l'esprit. Dans les croyances et dans les lois, la trahison, la médisance et les injures sont condamnées. Mais il n'est pas démontré adéquatement pourquoi ces actions sont essentiellement pernicieuses. Ainsi, ces censures ont l'apparence d'interdiction. Mais toute défense est relative et non convaincante. Quand le dommage et l'utilité sont prouvés, la nature essentielle peut être expliquée. Le caractère nuisible de la trahison, de la calomnie et de l'injure peut être démontré facilement par un exemple ordinaire. Bien sûr, la blessure ultime ne sera pas pour celui qui est trahi, mais pour le traître. Le monde entier est divisé par une ligne frontière entre le bien-être individuel et le bien-être général. Si nous agissons dans la sphère du bien-être général, avec des intentions sincères, nous avons alors comme support le réservoir entier des accumulations cosmiques. Ce calice des meilleurs accomplissements commence à agir le long d'un rayon invisible. Imaginez-vous qu'une chandelle remplie de malice est en train d'essayer de vous brûler. Vous n'avez encore pris aucune mesure, mais derrière vous approche une torche puissante. Faites-en l'expérience et vous verrez comment la chandelle coule, se carbonise et s'éteint. Ce n'est pas une punition, mais une conséquence des lois de la nature. Les gens trahissent, calomnient et injurient les porteurs du bien commun. Mais le sort de ces porteurs des feux roussissants n'est pas enviable. C'est pourquoi la trahison, la calomnie et l'injure ne sont pas pratiques. Par conséquent, ne pensez pas à la vengeance, car même les anciens disaient effectivement « La vengeance est mienne », a dit le Seigneur. Est-ce que la vie d'un traître est une vie facile? Également, dans les croyances et dans les lois, on a parlé contre le vol, et là de nouveau on croit entendre une interdiction. Alors qu'il faut indiquer que le vol est nuisible en tant que concept, augmentant le sentiment de propriété personnelle. Le vol blesse l'évolution du monde, et le lot de ceux qui nuisent à l'évolution du monde n'est pas enviable. Il retourne très loin en arrière. Il n'est pas important que certains objets passent en d'autres mains, mais ce qui est important est que deux hommes ressentent l'impact du sentiment de propriété personnelle. La loi concernant le vol est incomplète, car les vols principaux sont les vols de connaissances et d'idées créatrices contre lesquels on ne peut pas se protéger. Le vol sera aboli avec l'élimination de la propriété personnelle. Dans les croyances et dans les lois, l'intempérance est très condamnée, mais de nouveau sans explication. L'effet pratique de la tempérance en aliments et en paroles peut s'observer sur une période de plusieurs mois. Bien sûr, comme toujours, nous sommes opposés au fanatisme et au tourment. Le corps connaît tous ses besoins. Il est nécessaire de parler plus en détail de la tempérance sexuelle. La pensée contemporaine a donné trop de place à ce sujet. Des mystères très anciens disaient « Le lingam est le réceptacle de la sagesse ». Mais avec le temps, cette connaissance fut convertie en de hideux cultes phalliques et la religion se mit à interdire quelque chose sans savoir exactement pourquoi. Alors qu'on aurait dû simplement dire que le fait de la conception est si prodigieux qu'il est impossible de s'en occuper par des mesures ordinaires. On peut peser, on peut analyser jusqu'aux particules les plus petites, mais il reste encore une substance imperceptible et inscrutable, aussi irremplaçable que la force vitale d'une graine. En temps utile, nous dirigerons l'attention vers certaines propriétés frappantes de cette substance perceptible. Mais maintenant, il faut admettre qu'une substance aussi extraordinaire doit être très précieuse et doit avoir quelques qualités extrêmement importantes. Un idiot même le comprendra. L'expérimentation en donne certainement la meilleure preuve. Si nous comparons deux individus, dont l'un dissipe la substance vitale alors que l'autre la conserve consciemment, nous serons étonnés de constater combien plus sensible devient l'appareil spirituel du second. La qualité de ses travaux devient totalement différente, et la quantité de ses projets et de ses idées se multiplie. Les centres du plexus solaire et du cerveau sont chauffés comme par un feu invisible, pourrait-on dire. C'est pourquoi la tempérance n'est pas un renoncement pathologique, mais une action intelligente. Conférer la vie ne signifie pas rejeter l'entière provision de substances vitales. Si comme premier pas, les gens voulaient au moins se souvenir de la valeur de la substance vitale, alors, par cela seulement, la nécessité des interdictions serait notablement réduite. Il faut supprimer les interdictions. C'est la loi de l'effort. Mais un trésor irremplaçable sera conservé. Et ceci aussi, c'est la loi de l'effort. Regardons les choses plus véridiquement. Tout ce qui est irremplaçable sera aux premières places de la conservation. Pouvons-nous vraiment rejeter le trésor dans l'espace? Certes, cette énergie adhérera aux éléments desquels elle a été extraite avec tant de difficultés. Et plutôt que la coopération avec l'évolution, il en résultera des déchets qui devront être retravaillés. Ainsi, représentons la tempérance comme des ailes.